conférence privée par le père Philippe à Saint-Joseph, le 8 janvier 1987.
Nous allons continuer cette recherche dans l'évangile de Saint Jean, toujours pour découvrir à travers l'évangile de Saint Jean le cœur de Saint Jean, notre Père, découvrir son lien avec Jésus. Je vous disais que nous pouvons lire l'évangile de Saint Jean de diverses manières. On l'interroge de diverses manières. Et nous avons parfaitement le droit, étant donné que Jean n'est pas seulement un instrument de Dieu et de l'Esprit Saint. Il est le disciple bien-aimé. Ça, il le dit lui-même. S'il est le disciple bien-aimé, cela prouve qu'il vit ce que Jésus nous transmet par lui. Autrement, il ne serait pas le disciple bien-aimé. Donc, tous les secrets de Jésus qu'il nous transmet, il les reçoit lui. En premier lieu, comme un bon prédicateur qui se prêche à lui-même en premier lieu. S'il est très bon prédicateur, il vit ce que l'Esprit Saint lui demande de transmettre. Et ça se sent tout de suite. Quand il ne le vit pas, on dit c'est un très bon rhéteur, il parle très bien. Mais il ne donne pas un témoignage. C'est la très grosse différence. On ne doit pas se raconter et raconter sa vie en prêchant. Mais on doit témoigner de l'action de l'Esprit Saint en nous et de notre lien avec Jésus, sans le raconter. C'est ça qui est merveilleux dans l'évangile de Saint Jean. Jean disparaît. N'entend pas du tout Jean se raconter. Il ne dit pas j'ai vécu ça à Cana, ça a été merveilleux. J'ai eu cette première rencontre avec Marie. Non, il ne nous dit pas, mais il nous dit ce qui s'est passé. Il nous montre l'action de la Vierge Marie. Et on peut être sûr qu'il a vécu profondément ce que lui-même, sous l'action de l'Esprit Saint, nous transmet. Alors c'est ce que nous essayons de découvrir à travers tout l'évangile de Jean. Nous étions au début, hein, les noces de Cana, la dernière fois, ce que nous avons vu. Et je vous disais que Jean va regarder Marie comme Jésus la regarde. Je crois que c'est bien cela qui est le regard le plus intime et le plus profond sur Marie. Quand Jésus lui dit « Que me demandes-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Il y a un regard du Christ nouveau sur Marie. Puisque Jésus l'appelle femme, Jésus seul a l'intelligence plénière de cette phrase. Et quand nous arriverons au ciel, nous verrons on a gratté pour essayer de comprendre, mais qu'on n'avait pas très bien compris. Puisque ça a des sens infinis. Et quand Jésus dit ça, il y a une profondeur du regard du Christ qui nous dépasse complètement. Ça, nous pouvons tous en avoir la conviction. Et c'est très important. Parce qu'autrement, on dit, ah, j'ai compris. Et puis, on s'arrête là. Tandis que quand on sait que le regard de Jésus sur Marie, exprimé par cette parole, a une profondeur unique, nous essayons de plus en plus de comprendre cela. Je crois que Jean, qui était présent, peut-être que sur le moment, il n'a pas très bien compris, c'est très possible. Mais quand Marie lui a redit ce qui s'était passé à Cana, on voit très bien comment Marie peut lui dire ça. Et qu'alors, Jean, à l'école de Marie, commence à comprendre comme elle-même le regard de Jésus sur elle. Vous voyez, c'est assez impressionnant puisque à la croix, Jésus a dit à Marie, femme, voilà ton fils. Peut-être que Jean ne s'est pas rappelé la première fois où Jésus disait femme à Marie. Mais si l'évangile de Saint Jean est écrit après l'Apocalypse, Jean a eu cette vision de la femme. Il a compris à ce moment-là la profondeur de la signification de la femme. Et quand je regarde ce chapitre 12 dans l'Apocalypse, on voit bien le père Brône, le père Feuillet, jusque dans le dictionnaire de spiritualité. On affirme ce qu'il y a 50 ans on n'osait pas dire. Le père Allot n'a jamais osé le dire. Même il n'était pas content quand on disait que la signification première de femme dans l'Apocalypse, c'est Marie. Ça exprime aussi l'Église et ça exprime aussi toute la descendance de la femme, donc nous. Quand on voit la femme et face à la femme, le dragon. Et Jean, dans son expérience intérieure, vivant ce mystère de Marie, et le dragon, en sa présence, a compris combien elle était pour Dieu la femme, c'est-à-dire la petite créature, la plus fragile et la plus aimée. La petite créature, chef-d'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle est mise dans cette telle lumière dans l'Apocalypse. Chef-d'œuvre de Dieu. Chef-d'œuvre. Le plus pauvre, mais le plus aimant. Alors on comprend cette inimitié du dragon à l'égard de la femme. J'aurais compris ce qui était dit dans la Genèse. Et qu'en réalité, l'inimitié entre le dragon, le serpent et la femme, c'est pas premièrement Ève, c'est la descendance de la femme jusqu'à Marie. Et c'est là où on assiste à cette inimitié la plus violente. Le démon devine qu'il y a un trésor en elle. C'est la femme qui enfante, c'est la mère de Jésus. travers cette vision de l'Apocalypse, alors Jean comprend la profondeur du regard de Jésus sur Marie. Marie n'est plus seulement celle qui est reliée à Jésus dans son amour, mais elle est celle qui porte dans son cœur déjà à Cana la responsabilité de son peuple, qui porte la misère de son peuple, parce que je crois que c'est ça qui explique la demande de Marie. Elle a reçu pendant 30 ans, au moins pendant 15 ans, près de 20 ans, l'enseignement du Christ. Je crois que depuis l'âge de 12 ans, quand Jésus a commencé d'enseigner les docteurs en Israël, en les interrogeant, Jésus a continué son enseignement auprès de Marie. Peut-être en l'interrogeant. C'est la manière la plus humble d'enseigner, c'est d'interroger, pour obliger d'aller jusqu'au bout. Et Marie a reçu de Jésus, de 12 ans à 30 ans, cet enseignement par rapport au mystère de la parole de Dieu. Et grâce à Jésus, elle a pénétré tellement plus loin dans le mystère de la parole de Dieu. Ce qu'elle a reçu, elle désire que son peuple puisse recevoir la même lumière. Je crois que c'est cela le propre de la femme. C'est qu'elle reçoit, mais ne veut pas garder pour elle. Une femme qui garde pour elle le trésor qu'elle a reçu, je crois, c'est les conséquences du péché, ça. Ce n'est pas ce que l'Esprit Saint veut sur elle. Elle reçoit pour transmettre, parce qu'elle reçoit comme une source de vie. Elle reçoit pour que elle puisse le transmettre aux autres. Mais Marie savait qu'elle ne pouvait pas le transmettre aux autres. Qu'elle devait se soumettre entièrement à ce que Jésus voulait. Et Jésus voulait cette vie cachée. Marie a porté ce trésor de lumière, de sagesse, de 30 ans, de 12 ans à 30 ans. Elle n'aurait jamais osé faire quelque chose qui provienne d'elle en dehors de l'obéissance. Mais ici, Jésus a commencé sa vie apostolique. Jésus est parti au désert et Jésus a choisi ses apôtres. Et le choix des apôtres, c'est le début de sa vie apostolique. Jésus apparaît comme un chef. Il y a des disciples. Et donc, aux yeux de tous, il commence une vie publique. Marie peut donc exprimer le désir de son cœur. Et je crois que c'est cela que Jean découvre et que nous pouvons découvrir nous aussi. La demande de Marie, c'est pas seulement le vin des noces. C'est bien ce vin des noces, mais c'est beaucoup plus. C'est le vin de la sagesse. La sagesse invite à son festin, à son repas. Et la sagesse donne un vin généreux. La parole de Dieu c'est comme un vin généreux qui réconforte le croyant et qui lui donne de la joie. Marie sait bien cette parole, elle connaît cette parole du Cantique des Cantiques, où l'épouse considère que les paroles de l'époux sont pour elle un vin délicieux. Je crois qu'à travers cet épisode banal, d'une certaine manière, important mais banal, à travers cet épisode qui manque de vin, le jour de fête, le jour des noces, Marie, tout de suite, découvre quelque chose de beaucoup plus profond. La misère de son peuple. Ils n'ont plus de vin. Pas seulement les invités de la noce, mais au-delà des invités de la noce, tout le peuple d'Israël. Il n'y a plus de prophètes. Ils n'ont plus de vin. Alors la demande de Marie prend une profondeur nouvelle. Mais Jésus, lui, reçoit la demande de Marie dans une profondeur encore plus grande, comme toujours. Chaque fois qu'on demande quelque chose à Jésus, même si notre prière a une très grande intensité, très grande profondeur, si vraiment notre prière se fait sous le souffle de l'Esprit Saint et que nous supplions Jésus de nous sanctifier, parce que ça, il ne peut pas nous le refuser. Si nous supplions Jésus de tailler et de bien tailler pour que nous soyons plus donnés, chaque fois Jésus reçoit notre demande dans une profondeur plus grande que ce que nous nous demandons. Vous voyez, ça, c'est tout le grand mystère de la prière de demande. Et Saint Jean souligne ça à travers tout son évangile. C'est ça qui est extraordinaire, bien plus que les autres. Il montre que dans la prière de demande, et par la prière de demande, l'Esprit Saint veut nous éduquer. C'est pour ça qu'il faut demander. Et Jésus le dit, il faut frapper constamment. Parce que dès qu'on demande quelque chose, on ouvre son cœur. On exprime les désirs de son cœur. Et on les exprime à Jésus. On les exprime au Père. Et en exprimant ces désirs, nous sommes dans une disposition ultime à recevoir la correction de Dieu, son amour et sa miséricorde. Dieu ne peut nous corriger comme Père que si nous demandons. Quand nous ne demandons pas, Dieu ne peut pas nous corriger comme Père. C'est ça qu'il faut avoir des très grands désirs, il faut lui dire. Ah, il faut pas, il faut savoir qu'on recevra la réponse d'une manière très très curieuse, jamais ce qu'on a prévu. Si on demande, on fait un acte de confiance. Et chaque fois que vous demandez, vous faites un acte de confiance. Et vous montrez à Jésus que vous êtes lié à lui, que vous l'aimez, et que vous lui remettez les désirs les plus profonds de votre cœur. Confier cela. Et chaque fois qu'on fait ça, Jésus recevant le désir de notre cœur dans une profondeur plus grande, dans l'ordre de l'amour, que notre propre désir, Jésus répond d'une manière différente que notre demande. C'est pour ça qu'on a l'impression quelquefois que Dieu ne nous exauce pas, ne nous écoute pas. Combien de fois on entendra ça et que nous-mêmes, tant qu'on n'a pas compris, on le dit de temps en temps. Pourtant, j'ai tellement prié. Vous savez, on prie pour un examen qui soit réussi, une licence de philosophie, que ça soit bien réussi, que les professeurs soient gentils, et qu'on ait des questions qui soient exactement ce qu'on a vu. On demande ça. Et on a raison de le demander, puisque c'est ça son importance. Et puis, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de réponse. Ou il y a juste l'inverse. Et à ce moment-là, très facilement, il y a un repli sur soi. Et on s'arrête de prier, alors que ça devrait être l'inverse. C'est Dieu qui nous corrige pour que nous allions plus loin. Qu'au-delà d'une demande temporelle, il y ait une demande spirituelle, beaucoup plus profonde. Et je crois que c'est ce qui se passe ici. Et c'est d'autant plus émouvant que c'est entre Jésus et Marie. Et je crois que Jean a compris cela. Et qu'il faut lui demander de nous faire comprendre. Marie demande le vin. Jésus sait qu'il vient apporter le nouveau vin, puisque son testament, c'est de nous donner son corps et son sang en nourriture, comme breuvage, sous les apparences du pain et du vin. C'est ça l'intention profonde du cœur de Jésus. Et Marie demande le vin de la parole et le vin des noces. Et Jésus sait qu'il vient apporter plus que le vin de la parole, puisqu'il vient apporter un don plus intime, plus profond, qui est se donner lui-même. Par la parole, on ne se donne pas soi-même. Et là encore, le corps permet un don substantiel. Et c'est le mystère de l'Eucharistie. Il donne son corps et son sang. Le don substantiel du corps et le don substantiel du sang. Et c'est bien un don substantiel sous les apparences du pain et du vin. On se nourrit du pain. On s'abreuve du vin. C'est cela que Jésus est venu donner. Et Marie ne peut pas le savoir. C'est impossible. Elle n'aurait pas pu faire la demande. Sous le souffle de l'Esprit Saint, Marie demande quelque chose qui la dépasse complètement. Voyez comme on est instrument de Dieu quand on est docile au Saint-Esprit. Qu'on fait des demandes qui ont pour nous telle signification et qui en réalité ont une signification tout autre. Et je crois que c'est ce dialogue entre Marie et Jésus qui à première vue paraît justement comme un refus, mais qui n'est pas un refus, qui est tout simplement pour souligner que la demande de Marie dépasse ce que Marie peut demander. Que me demandes-tu? Mon heure n'est pas encore venue. L'heure de la croix, elle n'est pas encore venue. L'heure du miracle, mais oui, Jésus a commencé sa vie apostolique. Mais l'heure de la croix, non. Jésus attire Marie vers quelque chose de plus profond. Il va répondre à sa demande, prise d'une façon matérielle, extérieure. Et il répondra à la demande profonde, à la croix. C'est pour ça que tout l'évangile de Jean, c'est Cana et le coup de lance. Voyez bien, les deux extrêmes, l'alpha et l'oméga, Et je crois que c'est au moment du coup de lance que Marie a compris. Et que grâce à Marie, ensuite, Jean a compris. Comme pour nous, nous comprenons à travers le coup de lance. Puisque c'est là où Jésus donne son sang. Il le donne en plénitude, le coup de lance lié à l'Eucharistie. Et l'Eucharistie qui nous fait vivre du coup de lance, puisqu'il nous fait vivre de l'offrande totale de Jésus dans son corps et dans son sang. Ce regard de Jésus sur Marie, femme, que me demandes-tu ? Encore une fois, il faudrait entendre l'intonation, toujours la voix. Et ça, l'Esprit Saint seul peut nous la donner. L'Esprit Saint, selon l'évangile de Saint Jean, c'est la voix. Et ça fait que dans un dialogue, l'intonation, c'est capital. Mais la voix échappe à toute herméneutique. La parole tombe sur l'herméneutique, mais pas la voix. Parce que c'est de l'ordre de l'amour. Alors ça échappe. Et c'est ça qui est merveilleux. Là, on ne peut demander qu'à l'Esprit Saint. Seul l'Esprit Saint peut mettre dans notre cœur l'intonation. Femme, que me demandes-tu ? Je crois qu'il y a une très grande tendresse de la part du cœur de Jésus pour Marie. La première fois qu'il lui dit « femme », la demande dépasse infiniment ce que tu penses être. C'est vrai, c'est à la croix où elle est femme, puisqu'elle est la mère de tous les croyants, qu'elle est la mère de tous les hommes. Elle est la femme, la mère des vivants, au sens très fort. Et Jésus lui fait découvrir cela en l'appelant de cette manière-là. Femme, que me demandes-tu ? Et Jean, grâce à Marie, parce que Marie lui a été donnée, découvre ce lien nouveau entre Marie et Jésus. Et ce lien nouveau qui est justement cette prière de Marie, j'allais dire dans son sacerdoce royal, puisque elle a la plénitude de la grâce chrétienne, et donc elle a la plénitude du sacerdoce royal des fidèles. Et le sacerdoce royal des fidèles, c'est de comprendre qu'on est responsable de tous ceux qui sont autour de nous, de tous ceux qui vivent auprès de nous, de tous ceux qui vivent comme des hommes de la même race, descendants d'Adam et Ève. C'est cela le sacerdoce royal des fidèles. Ça s'exerce dans cette charité fraternelle où on est responsable les uns des autres. Et je crois que c'est cela que Jésus fait comprendre à Marie en l'appelant femme. Que me demandes-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. Il lui demande avec lui son heure. Je crois que c'est comme une espèce d'appel de Jésus sur le cœur de Marie. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'au terme, Jean souligne, après cela, il descendit à Capharnaüm, ainsi que sa mère, ses frères et ses disciples. Ils ne demeurèrent que quelques jours. C'est donc très significatif que Marie n'est pas retournée à Nazareth de Cana. Elle est retournée à Capharnaüm, donc elle sait bien suivre Jésus. Et dans ce que Jésus dit là, il y a comme presque une invitation de Jésus. Mon heure n'est pas encore venue. Donc, sois là jusqu'à mon heure. Il y a encore une place là. C'est vrai que Marie, elle est pour cette attente de l'heure de Jésus. Cette espérance eschatologique. Attendre l'heure de Jésus. Qu'il s'agisse l'heure de la croix ou l'heure du retour. Et ça, c'est le rôle de Marie, c'est le rôle de la femme. Je crois qu'on peut dire qu'à partir de Cana, il y a un lien très particulier qui se réalise entre le cœur de Jean et le cœur de Marie. Jean va aimer Marie.
Mais le signe manifeste la gloire.
Et la manifestation de la gloire fait croire. C'est très important, ça. Pour comprendre que le mystère de la foi, c'est toujours la personne du Christ. Les signes ne nourrissent pas directement notre foi. Mais les signes nous aident à découvrir la présence de Dieu. Nous aident à découvrir la gloire de Dieu, c'est-à-dire la victoire de son amour et de sa miséricorde sur le mal. Et c'est cela qui nourrit notre foi et qui permet à notre foi de grandir. Je crois qu'on peut peut-être aussi, en se rappelant ce que saint Thomas nous dit à propos de Cana, vous savez, cette petite remarque si importante de saint Thomas à propos de Cana dans son commentaire de saint Jean, de l'évangile de saint Jean. Saint Thomas nous dit que si on regarde les noces de Cana d'une manière mystique, mystique, on aura l'occasion d'y revenir. À propos du sens littéral. C'est très important que les noces de Cana, si on les regarde mystiquées, c'est une expression typique chez saint Thomas. C'est pas n'importe quoi. Il ne dit pas à propos de n'importe quoi. C'est pour lui quelque chose de très net. C'est la parole de Dieu qui va jusqu'au bout de ses exigences de parole de Dieu. Verbum, spirant amorem. C'est la parole de Dieu qui spire l'amour et donc qui produit au plus intime de l'âme une conversion du cœur. Une nouvelle étincelle d'amour. C'est notre cœur qui brûle par la parole qui est porteuse d'amour, qui réalise dans notre cœur un nouvel amour. Toute parole divine peut, quand l'Esprit Saint le veut, réaliser au plus intime de notre cœur un nouvel amour. Puisque la parole de Dieu est faite pour ça. Encore plus hein, que de nous enseigner. C'est très bien de comprendre la parole. C'est très très bien, il faut. Mais il y a quelque chose encore plus profond. C'est que la parole engendre l'amour. Et la parole divine demande d'engendrer l'amour. Alors, c'est le sens mystique, mystique. Et saint Thomas nous dit que regarder d'une façon mystique les noces de Cana, c'est le mystère de l'oraison. Alors, si saint Thomas dit ça, et je crois qu'il le dit lui-même, aucune référence à aucun père de l'Église, si saint Thomas a pu s'accrocher à un père de l'Église, saint Jean Chrysostome, ou saint Grégoire, il aurait tout de suite dit, ou saint Augustin. Quand il ne dit rien, c'est veuve, il est obligé de dire de lui-même, humblement. Alors, si saint Thomas découvre ça, je crois qu'on peut dire, comme saint Jean l'a découvert, comment Jean a-t-il vécu les noces de Cana? Je crois qu'il les a vécues dans une très grande intimité vis-à-vis de Jésus. Lui qui avait découvert l'agneau et qui n'a qu'un seul désir, c'est de demeurer. Maître, où demeures-tu? Jésus demeure à Cana. Il est là, présent. Il manifeste sa gloire. La gloire que Jean saisit à partir de Cana, cette victoire de l'amour du cœur du Christ. Je crois qu'on peut dire que Jean découvre que le mystère de Cana, c'est le mystère de l'oraison. Jésus vient pour cela, première éducation du Christ. C'est pour ça que c'est si beau, c'est pour ça que j'insiste. Parce que si Cana, pris d'une façon mystique, donc dans toute sa profondeur, au-delà des apparences, dans toute sa profondeur divine, C'est Cana, c'est vraiment le mystère de l'oraison qui est exprimé. La première chose que Jésus, dans un geste symbolique et dans sa présence, enseigne à ses apôtres, enseigne à Jean. C'est le mystère de l'oraison. Mais d'une manière très voilée, d'une manière très cachée. Peut-être que Jean seul a compris ça. C'est très possible. Et je crois qu'il l'a compris. Je crois qu'on peut le dire, puisque saint Thomas nous le dit. Et que Jean est encore plus proche de Jésus, vivant le mystère de Cana. Et de Marie, vivant le mystère de Cana. Et saint Thomas nous dit ceci, alors essayons de découvrir à travers le cœur de saint Jean. Les noces de Cana, prises de façon mystique, c'est le mystère de l'oraison, c'est-à-dire la transformation de notre cœur dans le cœur du Christ. La transformation de l'eau en vin. Notre cœur, il a des désirs qui ne sont pas très efficaces. Notre pauvre cœur humain. Notre pauvre cœur humain, il essaie d'aimer, mais il a une telle peine d'aimer. C'est de l'eau. Le cœur du Christ, c'est du vin. Pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai, le cœur du Christ, c'est une fournaise brûlante d'amour. Le cœur du tout petit enfant Jésus. Le cœur de Jésus à Cana, fournaise brûlante d'amour. Et ce cœur, fournaise brûlante d'amour, quand il réalise par amour pour Marie le mystère, le miracle de transformer l'eau en vin, veut nous faire comprendre que son cœur n'a qu'un seul désir, c'est de prendre possession de notre cœur pour le transformer en son cœur. C'est ça le mystère de l'oraison. Nous arrivons avec notre bonne volonté, en bon serviteur, en toute hâte, et nous puisons l'eau. C'est la seule chose que nous avons faite.
Dites, j'ai aucune volonté. Ça arrive, il y a des gens qui n'ont aucune volonté.
apprenez à en avoir, parce que ça pousse. Apprenez à en avoir une bonne volonté, et vous apprenez à avoir une bonne volonté quand vous vous efforcez de faire des actes d'adoration. C'est très élémentaire, un acte d'adoration. Et parce que c'est très élémentaire, on oublie. On oublie de faire des actes d'adoration. Or, c'est le premier commandement. Et Jésus nous dit que pas un iota disparaîtra. Et donc, c'est quelque chose qui reste et qui demeure fondamental dans notre vie. Notre cœur est un cœur plein de bonne volonté lorsqu'il fait des actes d'adoration. Alors on est un serviteur fidèle, doux et pauvre. Les trois grandes qualités de celui qui adore. Il est fidèle. Donc il reprend constamment ses actes d'adoration. 7 fois par jour. Le bréviaire des pauvres et du serviteur. 7 fois par jour. Dès que vous vous levez. Première chose. Quand vous vous couchez. À midi. Tout le matin et tout le soir. Comme ça, vous ponctuez votre journée par des actes d'adoration. Ce qui est tellement important. Ordinairement, quand on fait un acte d'adoration, on en fait 3-4 en plus. Donc, 7 moments d'adoration. Et si vous faites 7 moments d'adoration, votre vie sera transformée. C'est Dombey Lorger qui m'a dit ça. Et Dombey Lorger était un charismatique au sens le plus fort. Ce converti qui était vétérinaire dans l'armée. Qui ne croyait plus à rien depuis qu'il avait fait médecine de ce temps-là. Et qui a été converti aussitôt. Un petit frère convert qui l'ayant rencontré l'a conduit aussitôt là. Il a été très secoué. Il s'est converti. Il est entré parce qu'il voulait une vie contemplative. Et quand il s'est aperçu qu'autour de lui c'était des travailleurs et non pas des contemplatifs. Il a dit son mécontentement au Saint-Esprit. Il a dit au Saint-Esprit que l'Esprit-Saint l'avait trompé. Erreur sur la personne. Parce qu'il voulait entrer dans une communauté contemplative. Normalement, les cisterciens, les trappistes sont des contemplatifs. Quelquefois, ce sont des travailleurs. Ils sont tout le temps des travailleurs, mais quelquefois ils ne sont que des travailleurs, vous voyez. C'est pas tout à fait la même chose. Toujours est-il que le Saint-Esprit lui a dit de se taire et de continuer. Et le jour où il a été abbé, alors il a demandé au Saint-Esprit ce qu'il devait faire, comment transformer cette trappe de travailleurs en contemplatifs. Travailleurs de bonne volonté, mais pas de bonne volonté suffisante. Et le Saint-Esprit lui a dit, moi, il en était persuadé, et je crois que c'est vrai, étant donné que ça a été d'une efficacité prodigieuse. Tous ceux qui ont connu si tôt du temps de Dombey Lorger savent que c'était étonnant. Le père Joseph, à Lérins, quand on lui parle de Dombey Lorger, il est tout ému. Parce qu'il était son novice. Le Saint-Esprit lui a fait comprendre que pour transformer des travailleurs en contemplatifs, il fallait dire à chacun de faire 7 actes d'adoration en surabondance. Puisqu'ils avaient déjà l'office. Mais l'office était conduit par la cloche. C'était un peu le bouton de panurge. Ça arrive, ça. Dans des communautés. Hein. On sonne. On a un réflexe conditionné. On se lève, puis on va là où la cloche indique. Pas beaucoup d'actes humains, un réflexe conditionné. L'horloge est bien remontée. On a pris de bons plis. Alors le Saint-Esprit, qui n'aime pas les réflexes conditionnés, le Saint-Esprit qui veut quelque chose de beaucoup plus profond, lui a fait comprendre qu'il fallait demander à chacun de faire 7 actes d'adoration par jour. Pour que ce soit des actes personnels, individuels. Et au bout de 6 mois, c'est ton père Roger qui m'a dit, au bout de 6 mois, la trappe était changée. Et était devenue une trappe contemplative. Tout ça, très 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 bon. Parce que ça illustre magnifiquement quelque chose que nous savons, mais qu'on ne vit pas assez. On ne vit pas assez de l'adoration. Si on vivait plus de l'adoration, on entrerait beaucoup plus vite dans l'oraison. On ne vit pas assez de l'adoration. On n'a pas assez cette volonté, cette bonne volonté de faire des actes d'adoration. 7 fois par jour. Alors il faut reprendre cette résolution. Toujours au début de l'année. Parce que c'est vrai, on est tous avoir de très bonnes résolutions et puis ça se perd. Alors c'est pour ça qu'il est bon de se rappeler les noces de Cana, transformation de l'eau en vin. Ces bons serviteurs fidèles et doux et pauvres, ce sont ceux qui adorent. On est serviteur de Dieu en adorant. Et si on est un bon serviteur, on remplit jusqu'au bord les jarres. On remplit d'eau jusqu'au bord. 7, c'est plein. Et l'Esprit Saint fait le reste. L'Esprit Saint n'aime pas les paresseux. Mais celui qui s'en épouse en disant que les voix, j'ai pas, non, je suis pas fait pour l'oraison. J'attends l'heure passée. Je brûle ce temps pour le Seigneur, mais c'est déjà pas si mal. Je me suis levé tôt pour faire oraison. Puis on continue de dormir à moitié, un peu moins confortablement. Mais on continue. Alors à ce moment-là, le Saint-Esprit ne vient pas du tout. Tandis que si vous avez une volonté de faire des actes d'adoration pendant l'oraison, cette volonté d'être en présence de Jésus, en présence du Père, l'Esprit Saint viendra nous prendre. Transformation de l'eau en vin, transformation de notre bonne volonté dans la volonté du Christ. C'est ça le mystère de l'oraison. C'est très grand, c'est dit d'une façon très simple, puisque l'oraison, c'est l'exercice des vertus théologales. Et les vertus théologales réalisent cette unité profonde de notre cœur avec le cœur du Christ. Il ne faut jamais abandonner l'humanité sainte de Jésus, dit la grande sainte Thérèse. Il ne faut jamais abandonner l'humanité sainte du Christ. C'est parce que justement, l'oraison doit faire cette transformation de notre cœur dans le cœur de Jésus. Et saint Thomas ajoute, et saint Jean dirait aussi, Marie est toujours invitée. Et elle hâte l'heure de Jésus. Nous sommes tous indignes de faire oraison. Nous sommes tous indignes de cette transformation de notre cœur dans le cœur de Jésus. Mais grâce à Marie, l'Esprit Saint le fait. Jésus le réalise. Parce que Marie demande pour nous. Saint Thomas ajoute, Marie a un rôle à jouer. Elle est conseillère des noces. et elle présente notre âme à Jésus. Et présentant notre âme à Jésus, elle hâte l'heure de cette unité de notre cœur avec le cœur de Jésus. Vous voyez, je crois qu'on peut dire que Jean a vécu des noces de Cana de cette manière-là. Évidemment, je n'ai d'autres témoignages que saint Thomas. Et c'est le témoignage peut-être le plus fort qui soit. Jean, le théologien, comme les orthodoxes aiment de dire, et comme l'Orient aime de dire, Jean, le théologien. Mais saint Thomas vient après. Et donc si saint Thomas découvre cela, Jean l'a découvert. Il a découvert ce très grand mystère de l'horizon. C'est le désir de Jean, maître, où demeures-tu? Alors je comprends très bien, il a vécu toute la journée avec lui. Et puis après, quand Jésus va répond à cette invitation, on pourrait dire, mais l'horizon est complètement fichu alors, puisqu'on va à des noces, pas très favorables pour l'horizon comme climat, hein, le climat des noces. Psychologiquement parlant, c'est très vrai. Le désert est un climat merveilleux, mais les noces, non, pour l'horizon. C'est pas commode de faire horizon quand vous assistez à des noces. Pas commode du tout. Si on le fait pour accomplir la volonté du Père, donc dans l'obéissance, c'est ce que fait Jésus, et c'est ce que fait Jean, et c'est ce que fait Marie. Alors, rien n'est impossible à Dieu. Et à travers le climat des noces, l'Esprit Saint peut agir d'une manière tout intérieure et nous faire comprendre que ces noces, au point de vue humain, sont un signe de quelque chose de bien plus grand. Les noces de notre âme avec Jésus, qui est le mystère même de l'oraison. Alors c'est très beau de voir que c'est dès le début de la vie apostolique de Jésus, vous voyez. Il faut avoir toutes les audaces. Un novice peut avoir toutes les audaces. Il peut demander que tout de suite Jésus réalise son grand désir, transformer notre cœur en son cœur. Et que le mystère de l'oraison soit pour nous des noces divines. Il faut le demander à saint Jean. Vous voyez, c'est notre Père qui nous révèle ça et qui nous fait comprendre cela. Et il faut que nous entrions dans ce qu'il nous indique pour que nous comprenions mieux cette soif de Jésus, ce désir ardent du Christ que nous vivions pleinement et totalement de ce mystère d'amour. Ce mystère de surabondance.